On va évoquer la loi Neuwirth, donc de décembre 67, qui autorise l'usage des contraceptifs. La loi Veil de janvier 75, qui dépénalise l'avortement. Et la loi Taubira de mai 2013, qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe. Donc ces lois sont-elles légitimes? Alors pour beaucoup, oui. Et en réalité, non. Il faut donc considérer de quels critères de légitimité on parle. Et c'est vrai, cela nous permettra aussi de comprendre un peu mieux comment César parvient à prendre la place de Dieu de manière concrète. Alors on va dégager trois causes à la perte du sens de la légitimité. La première, c'est la confusion entre le légal et le moral. C'est vrai qu'il faut d'abord revenir très brièvement sur une des limites de notre système politique qu'on a déjà évoqué hier, à savoir cette exaltation de la démocratie qui amène nos compatriotes à confondre la légalité d'une loi, ou d'un gouvernement d'ailleurs, et sa légitimité. Une loi est certes légale lorsqu'elle est adoptée par une majorité démocratiquement désignée. Est-elle pour autant légitime? Le bienheureux Jean-Paul II fournit un précieux élément de discernement. Il dit fondamentalement, la démocratie est un système et comme tel, un instrument et non pas une fin. Son caractère moral n'est pas automatique, mais dépend de la conformité, à la loi morale à laquelle la démocratie doit être soumise comme tout comportement humain. Donc c'est ce que Père Bernard vient de nous expliquer. Donc le fait qu'une loi soit adoptée selon les règles en vigueur de la démocratie n'exclut pas un examen de ses dispositions. La conscience universelle réagit d'ailleurs à juste titre devant les crimes contre l'humanité dont le siècle dernier a fait la triste expérience. Ces crimes cesseraient-ils d'être des crimes si au lieu d'être commis par des tyrans sans scrupules, ils étaient légitimés par l'assentiment populaire ? En réalité, dit Jean-Paul II, la démocratie ne peut être élevée au rang d'un mythe, au point de devenir un substitut de la moralité ou d'être la panacée de l'immoralité. Donc c'est l'Évangile de la vie numéro 70. Alors, simplement, deux petits points, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas faire de confusion ni d'extrapolation. D'abord, l'Église n'est pas hostile à la démocratie, évidemment. Jean-Paul II, qui a vécu sous deux régimes totalitaires, il savait de quoi il parlait et il disait « la démocratie, c'est un signe des temps positifs ». Mais l'Église, c'est vrai, rappelle qu'il y a des conditions pour garantir la légitimité du système. Il y en a deux fondamentales. D'abord, si on veut que le gouvernement du peuple soit conforme au bien commun, il faut nécessairement que la conscience de ce peuple soit éduquée dans le sens du bien commun. La question est donc de savoir si le législateur doit suivre l'évolution des mœurs et déclarer légale toute revendication, ou bien s'il doit refuser de confondre le droit avec les faits et admettre que les lois qu'il adopte jouent un rôle de grande importance et parfois déterminant dans la formation des mentalités et des habitudes, et qu'il a donc une responsabilité éducative vis-à-vis de la société. Donc ça, c'est la première condition. Puis la deuxième, pour le dire avec Jean-Paul II, la loi civile doit assurer à tous les membres de la société le respect de certains droits fondamentaux qui appartiennent originellement à la personne et que n'importe quelle loi positive doit reconnaître et garantir. Les pouvoirs publics ne peuvent jamais accepter de légitimer, au titre de droits des individus, même si ceux-ci étaient la majorité des membres de la société, l'atteinte portée à d'autres personnes par la méconnaissance d'un droit aussi fondamental que celui à la vie. Donc vous voyez, c'est intéressant. La démocratie est un système qui en soi est bon, mais il faut quand même qu'on reste dans les conditions qu'il garantisse. Et puis le deuxième point sur lequel il faut quand même aussi nuancer, c'est que l'Église ne refuse pas de s'ouvrir à la modernité. Vous voyez, pour donner un avis sur la contraception, Paul VI avait constitué une large commission d'études. Il avait posé très loyalement la question, qui d'ailleurs on peut la retrouver dans Humanae Vitae au numéro.